Bien. Bonjour à tous, rebonjour. La matinée a déjà bien commencé, c'est midi déjà. Donc j'espère que vous êtes bien nourris de toutes les tables rondes et de toutes les thématiques que nous vous proposons cette année. Alors, un moment particulièrement agréable pour moi, même si les tables rondes, en tant que délégué artistique, souvent sont aussi un plaisir toujours, parce que je vois se concrétiser ce qui a été imaginé en amont. Il y a ici un moment vraiment particulièrement émouvant pour moi, qui est cette rencontre avec Alex Alice, et en particulier le Alex Alice du Château des Étoiles. Alors, le Château des Étoiles, c'est une série de bandes dessinées donc, qui est sortie chez Rue de Sèvres Éditeur. Alors là, Alex, voilà, est-ce qu'on a le... Non, c'est l'autre, voilà, c'est l'autre ordinateur qu'il nous faut. Oui, en HDMI, on est branché en HDMI, voilà. Donc, le Château des Étoiles, hein, une magnifique série de bandes dessinées donc, parue chez Rue de Sèvres, un nouvel éditeur, alors décliné... C'est absolument, voilà, moi j'ai vraiment un coup de cœur avant même de commencer à parler du contenu, de la genèse de l'album et du travail d'Alex Alice sur, avec Rue de Sèvres. Voilà, un magnifique, magnifique, magnifique album qui a été décliné de trois manières, à la fois en journal, en feuilleton et puis en très belle édition ici en beau livre, en format démesuré, en très grand format. Alors, Alex Alice, merci d'être avec nous. Merci d'être là aux Utopiales. Est-ce que c'est la première fois aux Utopiales pour toi ?
Non, j'ai déjà eu la chance de venir deux ou trois fois par le passé.
Deux, trois fois, hein, pour les séries précédentes. Alors, on a décidé tous les deux de partir à l'envers du temps. C'est-à-dire qu'on va partir par le plus récent, puis petit à petit, on remontera vers les origines, vers les premiers pas d'Alex dans la bande dessinée, dans la scénarisation et la bande dessinée, puisque l'une de tes particularités au départ déjà, c'est que tu es très souvent, pratiquement même tout le temps, à la fois dessinateur et scénariste. Est-ce que déjà ce travail-là sur le Château des Étoiles, où tu es à la fois dessinateur et scénariste, est-ce que tu considères le Château des Étoiles, avant de voir le contenu, comme une forme d'aboutissement peut-être par rapport à tout ce que tu as déjà fait, ou tu es dans la continuité et, par rapport à ce lien entre scénario et dessin?
Je suis toujours très enthousiaste sur le projet en cours, donc j'essaye à chaque fois d'y mettre tout ce que je peux, enfin le meilleur de ce que je peux faire. Donc maintenant, oui, aboutissement, c'est un grand mot, et puis j'espère faire encore des livres derrière. Mais en tout cas, oui, non, j'essaye de me donner un fond. En fait, je fonctionne vraiment au coup de cœur sur les sujets. C'est vrai que ça fait quelques années que je fais de la bande dessinée. J'ai travaillé que sur trois séries. Et je fonctionne en fait vraiment à la passion pour le projet. En fait, pour moi, il y a eu à chaque fois, et ça s'est passé que trois fois, mais une espèce de moment un peu de révélation. Je me suis dit, c'est formidable, c'est absolument ça qu'il faut faire, avec tout qui se met en place dans ma tête, le ton des scènes, souvent la fin des personnages, des moments forts. Et à partir de là, j'ai qu'une envie, c'est de les mettre sur le papier et trouver tous les moyens possibles pour y arriver. Et c'est vrai que c'est souvent des choses sur les... Enfin, comment dire, c'est vrai que j'aime bien intervenir sur le dessin et sur l'histoire. Et sur le Château des Étoiles, c'était tellement, à la base pour moi, bizarre et personnel que j'avais vraiment envie de tout faire. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal au départ du projet à expliquer à quelqu'un ce que j'avais envie de faire. En tout cas, à le convaincre, je pense.
Alors, on va parler de la genèse du Château des Étoiles. Donc, on est dans deux influences dans ce Château des Étoiles qui est un peu... pour moi, en tout cas, une revisitation extrêmement poétique, extrêmement romantique du 19e siècle, et en particulier de l'époque qu'on appelle habituellement l'époque des savants aventuriers ou des saventuriers, comme le club des saventuriers existe d'ailleurs sur Internet, vous le connaissez peut-être. Cette idée où la science est une aventure. Et la science est une aventure à la découverte de l'inconnu, à la recherche de nouveaux mondes, à la recherche de nouvelles énergies. Et il y a dans Le Château des Étoiles une dimension extrêmement vernienne, extrêmement inspirée de Jules Verne. Mais aussi, il y a, et ça c'est très novateur dans Le Château des Étoiles, il y a un sentiment, une attractivité, une attraction pour plutôt une Europe différente de celle de Jules Verne. C'est-à-dire que Ça n'est pas un château des étoiles vernien à la française, c'est à la fois vernien et pourtant centré sur une autre partie de l'Europe, une Europe plus centrale et une Europe plus tournée vers la Germanie, les restes du Saint-Empire romain germanique. Et ça, c'est aussi extrêmement à la fois nostalgique et surprenant. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels ont été les déclencheurs, les sources principales d'inspiration? Jules Verne, évidemment, mais cette partie de l'Europe, moi, ce qui m'a beaucoup touché, vraiment.
Oui, en fait, donc, le Château des Étoiles raconte la conquête des étoiles au XIXe siècle. Mais le récit complet, enfin, en une phrase, ce serait la conquête des étoiles au XIXe siècle financée par Louis II de Bavière. Et en fait, il y a vraiment dans ce projet cette rencontre de deux univers qui sont l'univers de Jules Verne, qui est quelque chose qui me fascine depuis tout petit, et cette espèce de romantisme allemand de la fin du XIXe siècle qui, moi, me vient en fait de visites que j'ai faites quand j'avais à peu près l'âge des personnages sur les lieux où se passe l'histoire, notamment le château qui s'appelle le Neuschwanstein, qui est un château qui existe, qui est bien connu, qui a inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant. Et du coup, tout cet univers romantique de cette période, de ce roi fou, qu'on disait fou, de Bismarck, de l'impératrice Sissi, c'est quelque chose que j'avais envie de retrouver. Et c'est marrant parce que c'est des univers qui sont contemporains et que moi j'avais jamais vu mélanger, en fait, cet univers 19e technologique et cet univers 19e romantique. Et en fait, c'est vraiment cette rencontre là dans le récit qui va précipiter l'histoire.
Oui, on est vraiment dans ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a deux univers qui a priori ne se rencontrent pas. On a souvent une vision de la rationalité de ce 19e siècle technicien, plutôt européen, plutôt anglais ou français. Et puis ce romantisme allemand, ce mouvement Sturmanstrang, qui est un petit peu l'école romantique allemande avec l'éloge de la nature, etc. Et puis ces forêts de Bavière et tout ça. Et ça ne se rencontre pas. On est plutôt dans le fantastique d'un côté, dans presque le mysticisme. Et là, ça se rencontre. Et ça fonctionne très très bien avec ce prince éclairé qui va financer les recherches pour mettre au point un vaisseau de l'éther. Alors on retrouve cette notion d'éther qui a été un grand fantasme aussi du 19e siècle, un grand mythe. Et c'est une magnifique aventure à la fois vraiment... c'est vraiment mon coup de cœur absolu pour cette année. Je l'ai lu. Alors il a été publié, il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas encore, il a été publié d'une manière très originale avant que l'album n'arrive. Ça, c'est la sortie de l'album est récente, hein. Je crois que c'est le mois dernier, il me semble.
Oui, voilà. Tout à fait.
Hein, donc, avant que l'album cartonné, classique n'arrive, il a été d'abord diffusé et distribué par Rue de Sèvres sous forme de journaux. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix avec l'éditrice, j'imagine, avec Agathe Jacon?
J'aime bien penser forme, en fait. Pour moi, ça va déterminer pas mal de choses, pour moi, notamment dans l'écriture. Et assez vite, je me suis dit... on est dans une période où on a la possibilité de lire sur plein de supports. Et moi, j'adore le papier. Et j'avais envie de proposer une expérience vraiment papier, quelque chose qui soit spécifique et qu'on puisse pas reproduire sur écran. Et je me suis rappelé de ce qui avait été fait sur des albums de Tardi, qui avait été prépublié en journaux grand format, distribué en librairie. Et je me suis dit, pour le Château des Étoiles, c'est idéal parce que ça correspond vraiment à la période, à l'esprit et au type d'histoire, en fait, de ce côté feuilleton, en fait. Finalement, Jules Verne s'était publié en feuilleton.
Tout à fait.
La plupart des auteurs du 19e siècle étaient publiés en feuilleton. Et donc, retrouver cet esprit-là sous forme de journaux grand format, ça permettait pour moi de à la fois d'exposer les pages sur un format très proche des originaux, avoir cet objet qui sort de l'univers. Et après, en termes d'écriture, ça m'a aussi guidé, parce que finalement je me retrouve avec des épisodes d'une vingtaine de pages et c'est très court, parce que en plus moi j'aime bien prendre un peu le temps pour développer les scènes. Oui. Et du coup ça me met une contrainte d'écriture et ça me force à être synthétique et à à faire en sorte que voilà, les événements s'enchaînent, qu'il n'y ait pas de temps mort et que le rythme puisse se créer, mais sur, voilà, sur un récit assez ramassé, ce qui est une contrainte, ce qui me continue à voilà, m'arracher un peu de cheveux qui me restent. Là, voilà, je suis sur le. Donc, il y a eu 3 épisodes qui forment le premier album. Il y en aura 3 autres qui formeront le deuxième album. Et je suis en train de travailler dessus. Là, je suis en train de peaufiner mes cliffhangers, comme on dit maintenant.
Voilà, alors justement, le cliffhanger à la fin du premier album est terrible. Et quand je suis arrivé, moi, vraiment à la fin du premier album, je me suis dit, oh là là, quand est-ce que va sortir la suite ? Je voudrais revenir aussi sur les personnages, en particulier Séraphin. Tu as ce narrateur principal qui est un enfant, dont la mère, qui était une exploratrice, une s'aventurière au sens plein du terme, c'est au tout début, donc ça je pense qu'on peut le dire, disparaît tout en allant à la recherche de cette énergie mystérieuse, peut-être illimitée, étrange qu'est l'éther. Et ce gamin, il est absolument merveilleux. Moi je trouve que là vraiment tu as atteint une beauté de la narration, cet enfant, déjà la manière dont tu le... Enfin, c'est quand même assez rare la manière dont tu le figures, la manière, le visage qu'il a, les expressions qu'il a, et à la fois la place qu'il prend petit à petit, progressivement dans l'histoire, est très très bien sentie. Est-ce que ce personnage de l'enfant qui découvre ce voyage initiatique, est-ce que c'était un élément important de l'histoire dès le départ ? Est-ce que c'était un passage obligé ? Est-ce que c'était une manière aussi pour toi de toucher un public plus jeune ou peut-être des souvenirs d'enfance, des réminiscences d'enfance ?
Bon, c'est marrant parce que sur les images on le voit pendant ce temps et là on le voit voilà,
c'est
mes recherches de départ en
D'accord,
fait et c'est vrai
la suite.
Ouais en fait j'ai assez vite je me suis dit sur ce type de sujet qui moi effectivement c'est une envie qui me vient encore une fois voilà de d'univers que j'ai découvert à l'âge des personnages, à la fois Jules Verne et ce romantisme allemand. J'avais envie de faire cette histoire pas pour les enfants, mais aussi pour les enfants. C'est-à-dire, je le fais pour moi aujourd'hui, mais j'ai aussi envie de pouvoir le faire découvrir, pour voir, en fait, laisser aux enfants la porte d'entrée que moi j'ai eue dans ces univers-là. C'est vrai que Jules Verne, on peut le lire, et c'était fait pour d'ailleurs, on peut le lire enfant. J'avais envie, en revenant sur ces univers-là, j'avais envie de pas refermer la porte derrière moi, en fait. De pas dire maintenant je vais faire mon truc référentiel pour adultes, pour les gens qui ont lu, qui connaissent déjà, et qui voilà, et puis maintenant on va se parler entre nous de nos souvenirs de lecture d'enfance. C'était au contraire d'ouvrir. Et pour ça, ça m'est venu naturellement. Je me suis dit qu'un protagoniste enfant, ce serait bien. J'avais envie de le faire. Et il m'est venu très naturellement. Et puis avec un petit groupe de personnages qu'on va retrouver
autour avec beaucoup d'humour, beaucoup de complémentarité. J'imagine que cet enfant va grandir, évidemment, dans les tomes suivants. Alors, autre aspect important, très vernien, je sors d'une table ronde sur Nemo et sur le Nautilus. Un aspect absolument fabuleux. Voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous le montrer quand même, même s'il va peut-être apparaître à l'écran. L'Éternef, donc le vaisseau que le père de Séraphin et Louis II de Bavière donc, vont s'entendre pour mettre au point, pour aller explorer les mondes. Bon, vous avez une planche, les albums ont été vendus avec une petite maquette à monter. Je me suis éclaté avec mon fils à la faire. Elle est toujours dans ma bibliothèque. Elle trône à côté de mes Jules Verne et à côté de voilà du château. Vous savez, je suis un peu
plaisir.
Trop enthousiaste peut-être, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Alors cet objet technique, cette magnifique Éternef, est-ce que c'était important pour toi cet aspect technique, l'objet technique comme à la fois personnage, parce que c'est un personnage à part entière, cette nef avec les plans, tu nous donnes les plans. Il y a un passage absolument cocasse dans la première partie où l'architecte au début, le premier ingénieur de l'Éternef fait quelque chose de totalement irréaliste et le père de Séraphin confronte les nécessités du voyage avec les préciosités de la cour et du protocole. Est-ce que ça c'était un objet très important au départ ? Est-ce qu'on va le retrouver par la suite ? Est-ce que...
Oui, c'était capital d'avoir une de ces machines de rêve en fait qui sont présentes chez Jules Verne et qui sont un moteur à fantasme absolument extraordinaire, en fait. Et je pense que c'est parce que c'est des engins qui incarnent, en fait, qui incarnent leur univers, en fait, qui incarnent leur époque. Et tous les rêves d'une époque, et le fait notamment que ce soit effectivement des engins qui sont conçus de manière technique, mais ce sont des merveilles de la technologie. On pense au Nautilus, on pense au boulet de canon de la Terre à la Lune, à l'obus d'ailleurs, mais ils sont conçus dans l'esprit du 19e, c'est-à-dire que dans l'obus de la Columbiade, on va avoir tout va être bien capitonné joliment, et puis on va venir là-dedans avec son costume trois pièces, et il s'agit pas de manquer d'élégance. Et le Nautilus est comme ça, particulièrement dans la version filmée d'ailleurs. Une machine extraordinaire, et voilà, j'avais absolument vraiment, enfin pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de concevoir donc cet engin qui s'appelle l'Éternef, qu'il est destiné à aller dans l'éther, et c'était assez drôle de jouer effectivement entre les contraintes techniques basées sur la théorie de l'éther, qui évidemment n'existe pas, mais sur lesquelles j'ai mis au point un certain nombre de règles qui seront les lois de cet univers. Et puis, effectivement, les fantasmes du roi qui, lui, construit ça comme il construirait un de ses châteaux. Donc, de la même manière qu'il construit des châteaux de contes de fées en plein 19e siècle avec des poutrelles métalliques et les technologies les plus récentes de l'époque, quand il va construire son Éternef, il va vouloir absolument qu'il ait une forme de cygne. Et voilà. Donc, ça m'a donné toute latitude, en fait, pour faire l'engin dont je rêvais, avec son salon de lecture, son salon de musique. Ces velours confortables et en même temps toute cette partie technique.
Et j'imagine qu'on va bien sûr le retrouver dans la suite du Château des Étoiles.
Ah oui, au centre du récit.
Voilà, au fur et à mesure, il prend de plus en plus d'importance.
Oui, j'avais vraiment envie dans cette histoire de pas me presser et de partir assez loin, en fait, et de raconter de prendre plaisir avec les débuts, en fait, parce que ça va raconter la conquête de l'espace, mais j'avais envie qu'on puisse se projeter, qu'on puisse en parler, se demander si c'est possible, faire des plans, rêver à ce que ce sera, rêver de la machine aussi. Et puis l'album va parler de la construction et des nombreuses péripéties qui l'entourent.
Voilà, et puis c'est vrai qu'on retrouve cette on pourrait dire cette lenteur, mais en fait ce serait négatif de le dire comme ça, cette progressivité, cette installation de l'histoire, puisqu'effectivement le premier volume, je ne dis pas la fin et les détails, mais je veux dire, on est vraiment dans la construction du projet, dans l'envol, dans la préparation, dans la mise en place de ce que tu appelles les chevaliers de l'éther, et ça c'est vraiment très, encore une fois, très très émouvant. Bon, pour moi, c'est vraiment une merveilleuse, merveilleuse réussite, et c'est une série que je suivrai vraiment pendant longtemps. Alors, on s'était promis, alors on va vous donner aussi la parole et on va vous donner aussi l'occasion de poser des questions à la fois sur donc le Château des Étoiles, mais aussi sur d'autres parties de l'œuvre de Alex Alice. On va quand même prendre un petit peu le temps maintenant de remonter. Alors, Alex Alice, donc, moi, je dois avouer que j'ai vraiment découvert ton travail. Moi, je suis plutôt du côté de la littérature, plutôt du côté de l'histoire, de la science-fiction littéraire, on va dire. Et du coup, la bande dessinée, c'est vrai que je la connais, mais il m'arrive parfois d'avoir des lacunes honteuses. Et donc, je ne connaissais pas bien, pas clairement en tout cas, ton parcours avant. Donc, quand je suis allé à la rencontre de Rue de Sèvres pour préparer les Utopiales, et que je suis tombé sur le Château des Étoiles, voilà, pour moi, tu étais comme un nouvel auteur. Mais bien sûr que non. Et tu as beaucoup, beaucoup d'expérience déjà derrière toi. Alors, notamment deux pôles importants, deux étapes importantes. Siegfried, d'abord, dont on va parler, qui était le projet avant le Château des Étoiles. Et puis, le Troisième Testament, et qui ont été aussi très marqués avec des grands succès, notamment sur le plan graphique. Hein, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la jeunesse de Siegfried? Et puis, on a un petit film à montrer qui se trouve aussi sur ton site. Alors d'abord, Siegfried, quel était le projet? Revisiter Wagner, la Donnée Bonlungen, c'était réinventer là aussi, un peu comme le Château des Étoiles réinvente un petit peu les aventuriers. Est-ce que le projet de Siegfried était de réinventer les Bonlungen?
Oui, c'était en fait de faire une histoire de fantasy sans faire une histoire de fantasy, c'est-à-dire de quelque part pas se positionner après tout ce qui a été fait, mais à la base. Donc de pas me sentir prisonnier de tout ce qui avait été construit depuis le 19e siècle en fantasy, mais justement de revenir à ce qu'avait fait le genre. Et pour moi, ce qui fait le genre, c'est les grands mythes. Et il y en avait un donc particulièrement qui me revenait en tête. Et qui est l'histoire de Siegfried et des Nibelungen, qui a été effectivement mis en musique et en drame musical par Wagner, et que j'ai découvert à peu près au moment où j'ai découvert les châteaux de Bavière. Donc je pense voilà, il y a dû avoir quelques années de ma vie là où j'ai fait le stock de l'ensemble de mes projets.
Oui, je pense que là il y a une influence de la Bavière tout à fait centrale. Tu as des origines de cette partie-là?
Alors, absolument de pas, l'Europe, non, pas du tout. J'ai même fait espagnol à l'école.
D'accord. Alors en attendant, mais c'est très intéressant parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on écrit souvent sur ses origines, et c'est pas forcément une constante.
Non, même si dans le Château des Étoiles, Séraphin vient du nord de la France comme moi. Voilà, donc j'ai pu redécouvrir en les dessinant le charme de ces paysages miniers avec leur terril et leur fumée, et leur ciel gris.
Pour Siegfried, tu as eu alors il y a une expérience intéressante. Tu as eu un prix qui est un prix donc d'art graphique. Tu peux nous en raconter, nous en dire un petit peu plus?
Oh, c'est en fait.
C'est une reconnaissance internationale aussi très.
Oui, ça m'a fait très plaisir. En fait, c'est un bouquin qui sort tous les ans qui s'appelle Spectrum et qui reprend les illustrations de SF et de fantasy qui leur ont plu dans l'année. Et la couverture du troisième Siegfried a été distinguée dans l'ouvrage, donc j'étais très content.
C'était en 2007, c'est ça hein?
Peut-être un peu plus tard. Non, c'était pour le troisième, donc ça devait être.
Alors je regarde d'ailleurs par rapport à tes dates de travail, finalement, tu es aussi un auteur qui s'inscrit dans la lenteur, hein, finalement, puisque 2007 c'était Siegfried, 2014.
L'application,
voilà, de 2014, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que tu prends ton temps finalement, tu n'es pas comme certains justement à vouloir essayer d'être là chaque année, présent particulièrement, etc. Cette maturation, c'est important pour ton travail.
Ben oui, mais en fait, comment dire, paradoxalement, je travaille assez vite en fait. Enfin, je trouve. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai deux malédictions. Je suis dessinateur réaliste. Et j'aime bien les châteaux et de temps en temps les figurants. et également je fais tout, c'est-à-dire que j'aime bien. Alors je travaille avec un co-scénariste sur certaines séries. Je travaille avec un dessinateur qui est à Nantes d'ailleurs, qui s'appelle Timothée Montaigne sur une autre. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu tout. Et sur le Château des Étoiles, sur Siegfried et sur le Château d'Étoiles, je fais tout tout seul. J'ai beau pas être très lent. Si on cumule le temps d'écriture et le temps de réalisation des pages, encore une fois, en dessin réaliste, plus la couleur derrière, plus la maquette, plus voilà, on se retrouve avec des délais incompressibles. Et c'est vrai après que j'aime bien prendre le temps de la maturation des projets. Donc c'est vrai que sur le Château des Étoiles, j'ai eu l'idée en 2008 et j'ai pris le temps voilà, de faire la recherche parce que c'est quand même, ça a beau être de la science-fiction, c'est très historique. Et puis voilà, de rassembler les idées et de faire en sorte que les choses grandissent un peu toutes seules dans ma tête.
D'accord. Oui, c'est vrai que le fait de maîtriser tous les aspects du projet, finalement, prend beaucoup plus de temps en termes de maturation, bien sûr. Mais
oui, mais alors après, c'est voilà. Après, on se retrouve avec des choses qui sont peut-être plus personnelles que quand on est sur un couple dessinateur-scénariste. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le vendre. Parce que sinon, hein, l'intégralité du monde vous explique que c'est mieux d'être spécialisé. Hein.
Oui, on dit toujours qu'il vaut mieux être... Voilà, on dit toujours que c'est vrai que c'est toujours difficile à un moment donné de ne pas avoir un manque ou quelque chose de moins abouti par rapport au dessin ou par rapport au scénario. Mais bon, moi je trouve qu'au contraire, justement, il y a des très beaux contre-exemples d'auteurs qui ont toujours tout fait, l'intégralité de leurs albums eux-mêmes, bah, et qui ont très bien réussi.
Oui, bah oui, un certain Georges Rémy, par exemple, bon, il avait des assistants. Mais... Non, je pense qu'en fait, en bande dessinée franco-belge, on a cette chance et cette particularité d'avoir des auteurs uniques. En États-Unis, ça existe, mais ça existe très peu. Au Japon, il y en a, mais je sais pas comment ils font. Déjà, d'une manière générale, je sais pas comment ils font, mais voilà. Donc, on a ça en France, et je pense que c'est bien et c'est important. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une pression de publication qui est pas évidente à gérer. Bon, le deuxième tome du Château des Étoiles va sortir l'an prochain, mais moi, c'est vrai que ça va me faire une année compliquée.
Encore à décharger, bien sûr.
Mais voilà, je pense vraiment sincèrement que moi, je sais que ce Château des Étoiles, je fais des choses, je me permets de les faire, qui honnêtement sur le papier sont bizarres et moi j'ai des copains qui me regardaient pendant que j'étais en train de le faire, des camarades d'atelier qui se disaient mais là t'es sûr, et en fait il y a une espèce de conviction que ça va marcher et que je me permets de faire parce que je suis tout seul et que je prends tous les risques et que je mène le truc jusqu'au bout. C'est vrai que quand je travaille avec un co-scénariste ou un dessinateur, il y a des choses que je me permets pas parce que je sais qu'il va y avoir un problème de communication et les choses doivent être il y a des choses voilà, qui doivent être menées de bout en bout pour que ça fonctionne et des prises de risque que je peux me permettre parce que je suis tout seul. Donc j'espère, enfin voilà, c'est vrai que ça facilite pas la vie, mais je pense que ça apporte quelque chose d'avoir quand même un auteur unique à la barre,
plus de liberté. Bon, manifestement je pense qu'on a perdu le Dell qui n'est pas en train d'arriver, mais c'est pas grave. Est-ce que, alors, on peut peut-être passer un petit peu aux questions avant de revenir encore plus en arrière dans le temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Alex et Alice? Oui. Alors, une question là-bas. Merci. Je vais essayer de voir si je vais vous apporter la clé, peut-être. J'ai le lien sur la clé.
J'ai pas. Ah si. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Merci pour ton travail. Alors moi je te suis depuis le premier tome du Premier Testament, donc j'ai bien vu l'évolution et je trouve que ce que tu fais aujourd'hui est vraiment merveilleux. J'avais deux questions par rapport au Château des Étoiles. La première, moi quand je l'ai lu, j'ai trouvé une très grosse influence. Alors peut-être qu'elle est volontaire ou involontaire des mystérieuses cités d'or. Aussi bien au niveau du design des machines qu'au niveau groupe d'enfants. Et la deuxième question, te considères-tu comme un contrôle freaks? C'est-à-dire, est-ce que tu suis complètement la création de tes albums, du grammage du papier jusqu'à la couleur, etc.
Je vais répondre à la deuxième question d'abord, c'est plus facile. Oui, totalement. totalement, oui, grabage du papier, tout, je vais à l'impression, et j'ai des éditeurs qui sont patients avec moi, et ce Château des Étoiles, c'était particulièrement important, parce que je voulais que les objets soient particuliers, en fait. Je voulais justement qu'on ait jusqu'à la texture, en fait, si vous les prenez en main, il se passe un truc, on a l'impression, enfin, voilà, je voulais recréer quelque chose qui s'apparente, enfin, qui renvoie aux éditions Hetzel, on est dans la salle Hetzel, d'ailleurs. et encore une fois, c'est des choses très spécifiques que j'ai en tête. J'ai la chance, voilà, d'avoir une vision très, très précise de ce que je veux. Après, ça ne veut pas dire que j'écoute pas les gens. Hein. Au contraire, je suis très à l'écoute. Je demande des avis. Je discute. Voilà. Simplement, je veux absolument avoir la main et la décision finale sur absolument tout ce qui va être présenté au public. Sur ces albums. Et pour revenir sur les mystérieuses cités d'or, en fait, c'est. Alors, je pense qu'il y a plein d'influences dans le Château des Étoiles. C'est vraiment. C'est pas celle qui revient le plus souvent. On m'en a parlé assez rarement. Mais alors, en fait, oui, totalement. Au moment de chercher à la base le ton de l'histoire, ça fait partie des références qui me sont revenues en tête. Ce merveilleux souvenir de promesses d'aventure incroyables et puis de récits de science-fiction dans un contexte historique. Et du coup, c'est vrai qu'à la fois en termes de ton c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Je les ai revus, pas au tout début, hein, mais au bout d'un moment, je les ai revus. Y a une écriture qui est remarquable, notamment sur les premiers épisodes. Donc c'est tout à fait assumé. Je trouvais qu'il y avait un. En fait, pour moi, c'est L'esprit était parfait. À mon avis, ils se sont perdus sur la fin. Mais ça va peut-être m'arriver aussi. C'est des choses qui sont difficiles à tenir. Et oui, effectivement, jusqu'au design du vaisseau, même si je dois dire que c'est peut-être pas l'influence principale sur l'appareil. C'est vrai qu'il ressemble à un oiseau, mais bon, des appareils volants qui ressemblent à des oiseaux, il y en a eu plein, surtout au début. Donc c'était pas le voilà. Finalement, le grand condor, ce qui est peut-être le truc qui se voit le mieux, c'est pas ça qui m'a le plus.
C'est plutôt dans le rapport entre l'enfant, la découverte et la technique comme moyen de découvrir le monde et de.
Oui, exactement. Et puis aussi ce moteur de l'histoire qui est une histoire d'aventure qui turbine au merveilleux, en fait. Le fait qu'on était amené d'épisode en épisode à se dire qu'est-ce qu'on va découvrir après, et notamment au début au niveau technologique, mais après des mondes mystérieux qui vont s'ouvrir, et voilà. Donc surtout ce ton-là et ce rapport au merveilleux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à voir, et qui est un esprit que j'aimerais transmettre là aussi, retrouver avec les gens qui l'ont connu comme moi, mais aussi transmettre. Et je sais qu'ils ont fait une nouvelle série que j'ai pas vue, mais voilà, c'est vrai que c'est le genre d'histoire que j'ai envie de faire découvrir à des enfants qui sont en âge de voir ce genre de choses.
Mais c'est vraiment la reconnexion avec le merveilleux en tant que tel. Hein. Finalement, c'est plus le merveilleux encore que. On pourrait t'inscrire dans le merveilleux scientifique, comme le redéfinissait Roland Lehoucq au début du festival. Mais je pense que c'est aussi la reconnexion à la magie du monde, en fait, à la magie de la découverte aussi, qu'on voit très bien à la fin, justement, à la fin du Château des Étoiles. D'autres questions ? Oui, au premier rang.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'ai découvert. Enfin, le Château des Étoiles, je l'ai découvert par la prépublication. Est-ce que le tome 2 sera également en prépublication en journal ? Et est-ce que vous savez déjà combien de tomes il vous faudra pour développer cette histoire ?
Oui, alors en fait, effectivement, dans cet esprit feuilleton, là aussi, je pense que ça renvoie en termes de format. Au feuilleton du 19e et aussi aux Cités d'Or, qui est quelque chose qui m'est vachement marqué avec le petit résumé au début et l'annonce à la fin. Ah, j'adore, je trouve que là aussi c'est une ouverture sur l'imagination. On avait à l'époque une semaine, là avec le Château des Étoiles vous avez un mois pour vous faire une idée de ce qui va arriver après. Et bien sûr on continue, oui. Mon éditrice Nadia Gibert chez Rue de Sèvres, en fait, c'était elle qui avait eu l'idée de faire ces choses-là pour les albums de Tardy que j'avais repérés, qui m'ont donné l'idée de le faire pour le Château des Étoiles. Donc, elle adore l'idée et ça s'est bien passé. Donc on va continuer. Et moi, j'adore ça. Le maquettiste qui travaille dessus fait un travail d'évocation de l'époque que je trouve incroyable. Et il y a aussi Alex Nikolavitch qui est scénariste et essayiste, notamment dans le domaine de la SF, qui est un copain, qui écrit des articles supplémentaires dans le journal et qui là aussi nous permettent de développer l'univers. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'ai absolument envie de continuer. Donc ça va faire 6 épisodes en journaux, 2 tomes en BD, et l'histoire se termine. Mais comme c'est marqué dessus, c'est une histoire dans l'univers du Château des Étoiles, et moi c'est un univers dans lequel j'aurais envie de continuer à écrire et à m'amuser. Évidemment je peux pas m'en empêcher, j'ai écrit beaucoup de choses pour la suite, et j'espère y venir assez vite. Mais il y a une fin en tome 2, voilà. Et après on repart.
D'accord. Merci. Encore une question ? Oui, au premier rang.
Bonjour. Donc,
bonjour.
Sans parler du troisième testament que vous n'avez pas fait tout seul, que ce soit pour Siegfried ou le Château des Étoiles, clairement, comme l'a dit M. Bellagamba, vous êtes parti sur des choses très originales qui, surtout au moment de la publication, sont relativement uniques en rayon. Quand Siegfried est sorti, à part Thorgal, sincèrement, les mythes scandinaves, on ne les voyait pas. Là, le Château des Étoiles, effectivement, c'est plutôt le côté romantique allemand. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées comme ça en tête ? Est-ce que vous avez déjà prévu d'autres projets dans des univers complètement différents que vous avez envie de mettre en place ?
Alors, Dieu merci, non. Parce que... pour moi, le Château des Étoiles, c'était un peu la malédiction. En fait, j'étais en train de commencer Siegfried 2 quand je me suis dit, bon sang, je suis tellement bien dans cet univers de Siegfried, je me régale, c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, c'était un plaisir à faire, incroyable. Et je me suis dit, si je me retrouve à terminer Siegfried et pas avoir une nouvelle idée qui me plaît autant, je vais être très très malheureux. Donc j'ai commencé à chercher et en fait j'ai trouvé en un mois.
Je diffuse le film en même temps.
Parce qu'elles sont quand même. Mais c'est très bien, c'est très beau, n'y touchez pas.
Il faut le son.
On va pas couper Wagner. Voilà, ouais. Là je cherche surtout pas. Parce que je pense et j'espère être sur le Château des Étoiles pendant un moment. Et en fait, l'univers, cette fois, contrairement aux univers que j'ai traités avant, qui étaient très liés à l'histoire, c'est-à-dire que l'univers de Siegfried, on enlève Siegfried, c'est pas qu'il a plus aucun intérêt, mais enfin, il est pour moi totalement inenvisageable de faire une autre histoire dans cet univers-là. Le Château des Étoiles, l'histoire crée l'univers, l'univers crée l'histoire. Et c'est un mouvement d'entraînement, en fait, qui, moi, me donne des idées pour voilà, plein d'histoires et dans un univers évolutif. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est une uchronie aussi qui se situe. C'est un journaliste qui m'a donné la formule, mais c'est exactement ce que je voulais faire en fait, qui se situe au point de rupture. Donc on est dans l'histoire réelle jusqu'à la première scène du tome 1 et là on va commencer à partir et on pourrait partir assez loin ce que j'ai envie de faire par la suite, pour l'instant je pourrais le faire dans le Château des Étoiles.
Ce qui est, je me permets de rebondir, ce qui est particulièrement jouissif aussi parce qu'on voit bien qu'on est dans l'histoire quand même, sauf qu'à un moment donné cette histoire va donc évoluer différemment, ce qui le différencie un peu du steampunk. C'est pour ça que j'ai pas parlé de steampunk, parce que dans le steampunk on est dans une revisitation des fantasmes d'une époque, alors que là on est vraiment aussi dans la construction d'une histoire différente et effectivement on est au point de divergence. Et je trouve qu'il y a une continuité avec Siegfried, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le respect des repères culturels, on est dans le respect des mythes fondateurs, mais tout en entrant petit à petit dans quelque chose de plus en plus personnel. Alors j'ai envie de prolonger quand même la question, de relancer un peu la question. Est-ce que l'étape d'après, ça ne serait pas quelque chose de totalement merveilleux, totalement personnel et finalement sans lien avec les mythes scandinaves ou les mythes du 19e siècle? Est-ce qu'il y a quelque part cette idée que peut-être le prochain sera un futur infiniment lointain, quelque chose de sans lien direct avec des repères culturels, ou en tout cas en les transformant complètement peut-être?
Disons, si vous prenez un Éternef et que vous quittez la Terre et que vous allez par exemple sur Mars, à mon avis, vous allez perdre vos repères culturels.
Après, Mars a été 1000 fois visité.
Oui, mais c'est toujours nouveau. Quoi.
D'accord, ouais, très bien. Donc, c'est une manière de répondre. Quelque part, on va de plus en plus vers plus de liberté, finalement.
Oui. C'est le côté extraordinaire de cet univers. Pour moi, c'est le meilleur terrain de jeu possible.
Là, on voit quand même les. Merci aux techniciens encore de l'espace Hetzel. Je les ai un peu tout à l'heure pris au dépourvu. On voit les très belles images là de ce petit dessin animé qui était un dessin animé promotionnel pour Siegfried et qui est vraiment. On voit bien qu'on est encore là dans le mythe, vraiment très très fort.
Oui, alors en fait c'était pas tout à fait ça, c'était un double projet BD et anime.
D'accord.
Je suis arrivé au bout de la BD mais pas du l'anime.
Ça n'a pas abouti pour.
Pas parce que c'est très cher.
Eh oui.
Voilà, donc là aussi c'est moi qui contrôle tout, donc c'est vrai qu'après avoir terminé la BD j'avais envie de faire autre chose que Siegfried, donc je suis parti effectivement sur le Château des Étoiles, surtout qu'il me trottait en tête depuis un moment, mais mon idée c'est d'y revenir voilà.
D'accord, et puis peut-être le Château des Étoiles aura aussi une adaptation dessin animé
je sais pas, ce serait
super. Ce serait absolument magnifique, je vote pour, si tant est que ça ait la moindre influence, mais je vote pour. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Alex Alice parmi le public? Oui, il y a un monsieur là-bas, je crois que c'est le même monsieur que tout à l'heure d'ailleurs, un monsieur qui aurait pu être un très bon modérateur ici puisqu'il connaît manifestement très bien ton œuvre.
Une dernière question purement technique, qu'est-ce que tu utilises, du traditionnel ou du numérique ou les deux?
Alors, j'en ai eu des petits problèmes de connexion avec mon ordi, mais si la régie veut bien retrouver sur ma clé USB, il y a un fichier qui doit s'appeler WIP, c'est la clé USB que vous avez là-bas, enfin la mienne, petite, noire. Parce que oui, je vous ai ramené. Je sais qu'il y a une école d'illustration et de BD à Nantes et je me disais qu'il y aurait peut-être des étudiants. Y a-t-il des étudiants dans la salle ?
Y a-t-il des étudiants dans la salle ? Voilà, très bien.
voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Tout est fait. Je travaille pour le Château des Étoiles, tout dans le réel en fait, avec du papier et de la peinture. C'est une technique qui vous pouvez passer les images hein, parce qu'il y en a un paquet. C'est une technique qu'on appelle la couleur directe dans le sens où tout est fait sur la même page, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, enfin ce qu'on faisait avant en bande dessinée où le noir et blanc était séparé de la couleur et la couleur était faite le noir et blanc était fait sur un papier qui était reproduit sur un autre papier sur lequel on faisait la couleur. C'est comme ça que j'ai fait Siegfried. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens travaillent la couleur sur ordinateur. Sur Château des Étoiles, j'avais très envie de travailler sur cette technique-là. Donc, couleur directe, c'est dessin et couleur sur la même page. Donc là, vous voyez une étape, c'est la première étape. C'est l'étape du crayonné. Et juste après, on va avoir voilà, la mise en couleur progressive qui est à l'aquarelle. C'est une technique qui fait peur, enfin qui moi me faisait peur pendant longtemps parce que c'est très exigeant. Je trouve qu'il y a très peu de gens qui s'en sortent en fait parce qu'il y a vite une tentation de l'illustration. En fait, quand on commence à rentrer dans la peinture pour chaque case, on peut effectivement se retrouver avec chaque case est une peinture. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un effet roman photo en fait où la narration, ça va plus couler entre chaque image. Ça va être comme dans un roman photo, un moment. Donc ça, c'est le grand danger. Donc je pense que j'avais besoin moi de me libérer un peu en illustration, de pousser les choses en termes de réalisme et de me dire ok je peux le faire, mais en illustration et en peinture, et de me dire ok bah maintenant pour le Château des Étoiles je reviens en fait sur le réalisme et je m'arrête au narratif. Et sur certaines cases, quand j'ai besoin justement d'arrêter la narration et de créer un moment où on va être dans le paysage, où on va volontairement arrêter la lecture, pouvoir pousser le détail et l'atmosphère. Et l'atmosphère, là aussi, c'est quelque chose sur lequel j'avais une idée très précise pour évoquer cet univers merveilleux du 19e. Je ne voulais pas d'ancrage, je voulais un dessin qui soit plus doux. Et avec des atmosphères très suggérées, ce qui fait qu'on va, à mon sens, pouvoir mieux se projeter dans les images et dans l'univers, en comblant ce qui n'est pas montré, comme dans une aquarelle de Victor Hugo.
L'absence d'ancrage crée un mouvement, crée quelque chose de vraiment poétique et vraiment tout à fait beaucoup plus doux. C'est tout à fait exactement ça. De ce point de vue-là, c'est encore une fois une parfaite réussite. Je pense que les étudiants ont peut-être des questions, justement, puisqu'on est arrivé un peu sur l'aspect technique, peut-être sur la genèse d'un album ou comment... Est-ce que tu as fait... En fait, ton parcours au départ, c'était une école de commerce au tout début.
Oui.
Donc, quels ont été les premiers pas dans la bande dessinée ? Quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait que... Quelle a été ta formation, finalement ? Est-ce que c'est une formation en apprentissage autodidactique ou comment ça s'est passé ?
En fait, moi, j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée et du dessin animé. Simplement, c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'avais aucune idée de mon niveau. J'étais dans un lycée où il n'y avait même pas de section artistique. Je ne savais absolument pas. Je pensais que j'allais y arriver, mais je ne savais pas dans quel délai. Et j'avais la possibilité effectivement d'aller faire une école de commerce, et c'est ce que j'ai fait en me disant si ça marche pas tout de suite dans le dessin, je ferai de l'édition ou de la production d'animation, qui sont des choses qui m'intéressent aussi. Et il s'est trouvé que j'étais en école à Paris et on organisait un festival de BD où j'ai rencontré Xavier Dorizon qui était dans l'organisation aussi. Et lui m'a dit je fais des scénars. Je lui ai dit je fais des dessins. On s'est regardé.
Voilà. C'est souvent comme ça que ça commence.
Et on a développé des idées ensemble. Et il a eu l'idée du Troisième Testament, et je me suis dit, ah, ça c'est super. C'était pas à la base l'univers qui me faisait le plus rêver, mais quand il m'a donné les quelques idées qu'il avait pour le début, je me suis dit, ah, ça c'est formidable, on va pouvoir en faire quelque chose. Et après, je me suis passionné pour l'univers du récit. Et il se trouve qu'effectivement, on a convaincu un éditeur alors qu'on était encore à l'école. Et mon premier album est sorti juste avant la remise des diplômes. Et donc, en fait, je n'ai jamais fait de commerce. Mais je m'en porte pas plus mal. Alors, par contre, effectivement, j'ai rencontré, via notamment l'organisation de dédicaces et de festivals, j'ai rencontré des auteurs, dont Denis Bajram, qui est là quelque part.
Voilà, l'exposition.
Qui est exposé là-bas. Mathieu Loffray, Claire Wendling, c'est des gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis j'ai suivi quelques cours en auditeur libre aux Beaux-Arts, en morphologie, avec mon copain Christophe Ferreira, qui lui, pendant ce temps, a fait Les Gobelins, est parti travailler dans l'animation au Japon, et a travaillé sur les recherches du Château des Étoiles au tout départ avec moi. Mais c'est vrai que je pense que c'est se former en autodidacte, si effectivement on a la possibilité d'approcher des professionnels une fois de temps en temps et d'avoir des conseils. Aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on trouve sur Internet, c'est totalement possible, en fait. Il faut, voilà, faut la motivation. Enfin, la motivation, de toute façon, si on l'a pas, on fait rien. Mais après, les moyens sont là aujourd'hui. C'est formidable et ça reste possible. Après, bon, je sais qu'il y a des écoles, mais on peut aussi faire ça tout seul.
On n'a pas parlé aussi de le blog. Tu tiens un blog. Est-ce que c'est toi qui l'alimente directement? Est-ce que c'est toi qui t'en occupe ou c'est plus le cas?
Non, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez D'accord. vu la fréquence.
Oui,
Non, je ne suis pas très, très actif sur Internet. Je me suis mis à Facebook à l'occasion du Château des Étoiles parce qu'il y a 3 clics de moins par image. Donc, je suis vraiment très, très feignant avec ça. Ça me va mieux. Oui, alors je sais pas quelle était la question, pardon. Donc,
sur le blog. Non, mais si ça avait un rôle important dans ton travail.
Non, non, contrairement à d'autres auteurs,
parce qu'il y a certains auteurs, j'ai interviewé Rémi Gourierec au tout début du festival, qui lui est né avec le blog.
Eh ben oui, il doit être très jeune.
Il est né dans son travail de son travail de dessinateur, de scénariste, lui aussi fait tout, et il est né dans le blog. C'est le blog qui a été son laboratoire, laboratoire.
Alors, mais je comprends tout à fait. Et alors, mais ça met en fait, très étranger en termes de processus de travail. Je trouve ça. C'est complètement autre chose. Moi, j'ai vraiment absolument besoin de travailler porte fermée, comme dit Stephen King. C'est-à-dire, j'ai une idée de l'impression que je veux donner dans un album. Pour moi, c'est un flash. Il y a un moment, en quelques heures, ça se met en place et je me dis voilà exactement ce que je veux faire passer. Et après, je vais passer des années de développement, en faisant autre chose. Et puis après, à peu près un an de travail sur chaque album pour arriver à cet effet-là. Et je ne vais pas dire chaque case, mais enfin, beaucoup de moments dans l'album sont des moments que je prépare depuis la couverture, le logo, même la présentation en amont. je surveille tout ce qui est marketing, tout ce qui va être annoncé en amont, pour surveiller quelles sont les promesses que je fais, pour que quand on arrive, qu'on prend l'album en main, qu'on commence et qu'on arrive sur la case, on ait exactement l'effet que je cherche. Enfin, j'espère, en tout cas, je fais tout mon travail pour que quand on arrive sur la case, ce soit ça, que ce soit un truc drôle ou un moment merveilleux ou une découverte ou un truc très émouvant. Et donc l'idée je travaille dans mon coin, évidemment, avec mes amis, avec mes éditeurs, avec des copains qui me sont proches, à qui je fais lire, etc. Mais j'ai envie d'arriver avec l'album, il est là, et vous pouvez profiter de l'expérience comme ça d'un seul coup. En l'occurrence, avec les journaux, c'est différent, mais voilà. Et j'ai absolument besoin que tout mon processus soit secret, en fait.
Et oui, le laboratoire habituel fermé.
Quoi. Ben oui, c'est ça. Alors, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on peut plus se passer tellement d'avoir un petit peu de présence sur Internet. Donc, j'ai commencé effectivement à faire ça un peu plus sérieusement avec une page Facebook sur le Château des Étoiles, où c'est moi qui le fais, parce que justement, je fais partir que les choses sur lesquelles je me dis souhaite. Ok, ça c'est une promesse que je fais, mais je sais que ce sera pas décevant.
Tu es bien quand même dans le contrôle, hein, on est bien d'accord, on n'est pas loin du contrôle.
Non, bah oui.
Alors bah, on a 5 minutes, une dernière question. Allez, mademoiselle, oui. Désolé, c'est la première que j'ai vue.
Bon, après, par contre, une fois que l'album est sorti, c'est vrai que j'ai plaisir à montrer les choses qui ont été faites, faire des éditions, faire des choses où je peux montrer le processus, mais dans après, un second temps, quoi. C'est vrai que j'ai pas envie de sortir le making-of avant le film, si vous voyez ce que je veux dire.
Bien. Mais en fait, personnel, je comprends ça très bien. Oui.
Bonjour, ben, on parlait de making-of, et je voulais savoir si vous... je suis là.
Pardon.
si vous comptiez vous filmer, par exemple, filmer la réalisation d'une planche, parce que moi qui veux faire de la BD aussi, je suis curieuse de voir comment sont faites les planches que tu fais en fait.
Ben alors donc c'est ce qu'on voit et j'ai ramené des choses effectivement que j'ai pas montré avant. Là il y a vraiment les étapes l'une après l'autre. Oui, ce serait faisable et c'est moi je trouve ça intéressant quand je vois mes petits camarades qui le font donc oui non c'est une bonne idée, faudrait que je me bouge.
Je pense qu'il y aura des candidats hein, pour filmer ils sont en train de dessiner.
Non oui, c'est effectivement des super manières de faire. Effectivement oui non, faut filmer, faut monter. Ouais non, ce serait bien. Ouais,
on pourrait proposer à, je le dis en temps réel, on pourrait proposer à Laurent Sonora ici qui couvre les Utopiales, qui fait des très très beaux films justement avec Innovation, de peut-être faire quelque chose. On en parlera tout à l'heure. Bien, merci à vous tous. Merci d'abord à Alex Alice, Le Château des Étoiles. Merci.
Merci à vous.
Chez Rue de Sèvres Édition, très 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 bel album. Voilà et bravo. Merci.